Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Pendant la guerre civile, la vie continue. C'est ainsi qu'apparaît Alep, seconde ville de Syrie. Le photographe Amar Abd Rabo témoigne avec des clichés ramenés des quartiers tenus par la rébellion anti-Assad. Comment se porte la société tunisienne à la veille du premier tour de l'élection présidentielle? Quel est en particulier le poids de la religion? Nous entendrons le témoignage d'un ancien homme politique et diplomate, ardent défenseur d'un pouvoir séculier en Tunisie. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Boutianti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Amar Abd Rabo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes photographe franco-syrien, vous retournez régulièrement en Syrie, bien entendu, et vous allez en particulier à Alep, qui est le sujet de cette exposition que l'on peut voir à la galerie Europia à Paris. Alors pourquoi avoir choisi précisément Alep ?
Alors parce que c'est l'une des plus anciennes cités du monde. C'est une ville qui a une histoire absolument fantastique et qui nous touche tous. C'est pas une ville syrienne, c'est une ville de l'humanité. Une bonne partie d'Alep est d'ailleurs inscrite au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Et parce que c'est une ville qui a énormément souffert dans les deux dernières années et malheureusement dont on parle assez peu. Je veux dire, pour une ville de 4 ou 5 millions d'habitants, vous allez trouver quelques papiers ici ou là, mais pas plus que ça. Alors que, par exemple, récemment, la petite ville de Kobané, qui est un peu au-dessus, où il y a 40 000 habitants, donc 100 fois moins, là, on en parle beaucoup plus.
D'autant que c'est une ville, une métropole, qui oppose dans ses quartiers les deux grandes tendances actuelles, c'est-à-dire le régime de Bachar el-Assad et la révolution.
Absolument, la ville est coupée en deux, et ça aussi, c'est toujours fascinant, cette façon d'aborder la guerre dans la ville et qui dit guerre dans la ville, on peut voir dans mes photos, c'est aussi la vie de la ville dans la guerre. Alors c'est un parti pris un peu particulier parce que j'ai pas voulu montrer les classiques, les soldats, toute l'imagerie classique qu'on a de la guerre. Moi j'ai préféré montrer un peu le hors-champ.
Alors on voit par exemple de l'ail à profusion, on voit du savon qui ressemble à du savon de Marseille, on voit aussi des enfants qui vont ou qui sortent peut-être de l'école. Ça veut dire que la vie continue au quotidien à Alep.
Absolument. Quand vous êtes dans une ville comme ça de plusieurs centaines de milliers d'habitants, quand la guerre est là ou quand l'état de guerre est là, il y a de l'exode, bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui partent. Mais il reste encore à Alep, dans les villes, dans la partie de la ville, dans les quartiers qui ne sont plus sous la tutelle d'Assad, il y a aujourd'hui à peu près 200 ou 250 000 habitants. Dans ceux-là, il y a peut-être 10 000 combattants et tous les autres sont des civils. Mais en tout cas, pour eux, il faut continuer à vivre, oui. Il faut continuer à prendre soin de ses enfants, il faut continuer à prendre soin de soi, de sa santé, de sa nourriture, etc., etc. Et ça, qu'il y ait une guerre ou une élection ou des manifestations, ça ne change pas, c'est partout pareil.
On travaille ?
On ne travaille pas comme avant, c'est-à-dire il n'y a plus d'activité commerciale, il n'y a plus d'activité... Le cœur de la ville est bouclé, il y a des combats, etc. Donc il n'y a plus la même activité commerciale d'avant, mais il y a des marchés, il y a des agriculteurs qui ramènent leurs fruits et leurs légumes, il y a des gens qui les vendent, donc il y a des gens qui les achètent, etc. Donc il y a quand même une activité économique, même si elle est beaucoup moins importante qu'en temps de paix.
Vous me disiez également qu'il y a des quartiers qui sont très propres, qui sont nettoyés. Comment est-ce possible ?
Absolument. Il y a des quartiers où le conseil de quartier, le conseil, en tout cas par exemple le quartier de Salah ed-Din ou de Saladin, si on veut le franciser, c'est un quartier où le conseil révolutionnaire est très actif et très... Peut-être on peut sans doute employer le mot civique, qui parfois est employé à tort et à travers, mais là il y a vraiment du civisme. Donc on nettoie les rues, on repeint certains immeubles, on ouvre des écoles, on organise l'aide humanitaire, on fait en sorte que des enfants ne traînent pas dans la rue tard le soir, etc., etc. Alors c'est pas le cas partout, malheureusement, mais il y a des quartiers, effectivement, où on a décidé de prendre son destin en main et de pas attendre la fin de la guerre ou de la fin de la révolution qui peut durer encore des mois, voire des années.
Vous retournez à Alep à peu près tous les 3 ou 4 mois, m'avez-vous dit. Qu'est-ce qui a changé ces dernières semaines, par exemple ?
Alors le dernier voyage qui était il y a déjà quelques semaines, malheureusement il y a eu beaucoup de gens de la ville qui sont partis parce que l'intensité de ce qu'on appelait la campagne des barils, c'est-à-dire ce sont des barils d'explosifs qui sont largués sur la ville et qui font beaucoup de dégâts, l'intensité a poussé énormément de gens à partir, donc certains quartiers d'Alep ont perdu les 4/5 de leur population, c'est énorme. Donc ça donne une impression d'une ville assez déserte, et c'est dur hein, quand vous êtes dans une ville comme ça de 4 millions d'habitants dont des quartiers entiers sont déserts, il y a le silence, il y a presque rien à part les bombardements. Et du coup, ça a amené aussi une espèce de... Comment dire, une lassitude un peu des gens, ils sont plus durs, ils sont même plus durs avec nous, je veux dire avec les journalistes ou avec les occidentaux ou avec ceux qui viennent d'ailleurs ou de loin. Avant, on entendait des choses du style « Ah, c'est super que vous soyez là, vous allez raconter ce qu'on vit ». Et maintenant, on entend beaucoup de gens qui disent « À quoi ça sert que vous soyez là, ça sert à rien, vous risquez votre peau, vous changez rien, ce que vous racontez ne fait pas bouger les politiques, ne fait pas bouger l'opinion publique. Rentrez chez vous, vous serez mieux chez vous avec vos familles. »
Pourtant, c'est important de voir les photos que vous exposez qui montrent que la vie continue.
Moi, j'espère que c'est... Enfin, pour moi, c'est important. J'espère que les gens qui sont venus voir l'expo ou ceux qui vont venir la voir, j'espère qu'ils ressentiront la même chose. Moi, j'étais très touché, par exemple, de voir des enfants venir voir ce qui se passe et ressentir un petit peu de la douleur des enfants d'Alep. Déjà, pour moi, c'est énorme.
Atem Ben Salem, bonjour.
Bonjour.
Universitaire tunisien, ancien ambassadeur notamment en Turquie et auprès des Nations Unies à Genève, ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ancien ministre de l'Éducation nationale en Tunisie. Alors, la situation en Tunisie politique est en pleine évolution. Il y a eu, il y a 4 semaines, un premier tour, si on peut dire, hein, les législatives qui ont vu les laïcs arriver légèrement en tête devant les islamistes d'Ennahda. Demain, dimanche, a lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Comment voyez-vous l'évolution politique de votre pays ?
J'étais un peu pessimiste avant les élections législatives. Mais lorsque j'avais remarqué, comme tous les Tunisiens d'ailleurs, que le peuple tunisien était assez mûr pour prendre ses responsabilités et pour aller de façon pacifique et si bien organisée vers les élections, je suis heureux aujourd'hui de parler et d'insister sur ce que j'appelle l'exception tunisienne, parce que je suis fier de mon pays, je suis fier du peuple tunisien et je sais que nous sommes aujourd'hui en train de construire une véritable démocratie en Tunisie.
Dites-vous cela parce que les laïcs sont arrivés en tête ?
Non, pas du tout. Les laïcs, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de laïcs en Tunisie. Le parti Nidatoul, c'est un parti aussi conservateur que le parti Ennahda. Ils ne sont pas arrivés en tête, mais il y a une sorte d'alternance. Et c'est l'alternance qui est la meilleure garante d'une véritable vie démocratique dans le pays. Parce que vous savez comment on a vécu, le pouvoir était accaparé par un seul parti. Et là, aujourd'hui, nous avons, en quelques années, en 3 ans, nous vivons une alternance qui sera certainement très bénéfique pour la mise en place des institutions politiques et constitutionnelles en Tunisie. C'est un pas de géant et il faut le reconnaître. Je ne vais pas vous dire que le prochain gouvernement pourra résoudre les problèmes de la Tunisie. Il y a des défis énormes à relever et moi je souhaite beaucoup de chance au prochain gouvernement. Mais l'essentiel, cette étape de mise en place d'un véritable processus démocratique a été faite et a été faite dans les règles de l'art et c'est à mettre au crédit de la Tunisie.
Y compris avec un parti islamiste qui reste quand même très présent.
Cela va peut-être vous étonner, mais je considère que le principal vainqueur de ces élections est le parti islamiste Ennahda. Parce que Ennahda est passé par des moments extrêmement difficiles dans sa petite expérience du pouvoir. Ennahda a quasiment mis le pays en faillite. Ennahda a mis à dos une majorité des Tunisiens et malgré cela, Ennahda arrive avec 800 000 voix à s'imposer en tant que second parti en Tunisie avec 69 députés. Je crois que c'est là une réalisation qu'il faut considérer avec beaucoup, beaucoup de sagesse.
Alors, le parti Ennahda n'aura pas de candidat à la présidentielle. Est-ce à dire que c'est finalement une stratégie politique de ne pas gagner les élections actuelles ?
Je pense qu'Ennahda, dès le départ, les islamistes, compte tenu de leur idéologie, avaient pour objectif de remettre en cause l'institution présidentielle. Le président, avant 2011, avait des pouvoirs quasi absolus et par réaction, et moi je suis contre cette réaction-là, la nouvelle constitution tunisienne dénude carrément le président des prérogatives les plus essentielles à la présidence de la République. Je considère que c'est une erreur. Ennahda, aujourd'hui, ne présente pas de candidat parce qu'elle ne veut pas de cette présidence qui est une présidence honorifique, une présidence d'inauguration de chrysanthème. Donc aujourd'hui, Ennahda a focalisé tout son apport, tout son poids sur les législatives en sachant pertinemment que c'est là où réside le pouvoir de changer, de faire évoluer dans le bien ou dans le mal la société tunisienne. Et donc, les élections présidentielles pour Ennahda ne sont pas aussi importantes qu'on le croit. Mais ce sera l'apport au premier tour. Ce sera l'apport et le soutien d'Ennahda, même discret, à un des candidats qui le fera passer au second tour. Parce qu'il est évident aujourd'hui que ce sera Kaïd Essebsi qui passera certainement au premier tour, mais le grand point d'interrogation, c'est qui sera le deuxième. Le deuxième sera celui qui, discrètement, publiquement, indirectement ou directement, sera soutenu par Ennahda.
Alors, la société tunisienne est majoritairement musulmane, nous ne l'apprenons à personne. Pour autant, doit-il y avoir des partis politiques confessionnels ?
Je suis totalement contre confusion entre politique et religion. Mon drame à moi, personnel, c'est que j'avais l'impression que même avant 2011, il y avait un consensus national pour refuser toute politisation de la religion. Aujourd'hui, on a donné une autorisation à des partis politiques pour parler au nom de l'islam. Je pense que c'est une mauvaise chose et que ça ne nous amènera pas vers un régime démocratique qui se respecte parce que on ne peut pas parler de religion en politique. On ne peut pas confondre des idéaux religieux avec des idéaux politiques. Je crois que là, c'est le grand point d'interrogation pour les Tunisiens. Et de toute façon, la société tunisienne évoluera probablement vers une séparation claire et nette entre le religieux et le politique. Il y va de l'avenir, il y va de l'équilibre de la société tunisienne.
Une sorte de laïcité dont le modèle français pourrait apparaître comme intéressant.
Le modèle français est intéressant. Moi, je ne parle pas de laïcité. Je parle peut-être de sécularisation. Moi, je pense que l'État doit être celui qui est le garant. L'État démocratique, donc le gouvernement démocratique, l'État neutre, doit être le garant de l'exercice libre de la religion, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou juive. Il n'y a pas de différence pour moi. Mais l'essentiel, c'est que l'État joue ce rôle de garant, ce rôle d'organisateur du fait religieux. Et l'État doit absolument neutraliser toute tentative d'idéologiser la religion, parce que nous partons là sur des terrains très dangereux où la menace de mécréance ou la menace d'apostasie peut être vraiment catastrophique pour les Tunisiens.
Merci Atem Ben Salem.
Merci à vous.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchianti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
À la une, Michel, un attentat déjoué qui visait le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman.
Avigdor Lieberman avec une cible à côté de son front et ce titre dans Yediot Aharonot, conspiration, éliminer Lieberman avec une roquette, titre le journal. Les faits remontent au mois d'août dernier, en pleine opération bordure de protection, mais l'arrestation de la cellule du Hamas responsable de cette tentative d'attentat n'a été publiée que maintenant et fait donc les titres de la presse du week-end en Israël. Les membres de ce commando voulaient s'en prendre au ministre des Affaires étrangères qui habite une colonie de peuplement proche de Bethléem lors du déplacement du convoi ministériel. Et pour ce faire, ils avaient tenté de se procurer une roquette RPG et c'est là qu'ils se sont fait prendre un plan qui, s'il avait été couronné de succès, aurait enflammé la région de plus belle.
Et bien sûr, Michel, l'attentat dans une synagogue à Jérusalem-Ouest, en pleine prière du matin.
C'est l'événement qui a le plus marqué cette semaine, un des attentats les plus sanglants qu'ait connu Israël. 5 morts dans l'attaque à la hache et au pistolet dans une synagogue de Jérusalem-Ouest, 4 rabbins et aussi un policier druze qui venait à leur secours. On retrouve là les critères d'une guerre de religion, estime un commentateur du Haaretz. Amira Hess s'interroge sur ce qu'elle appelle le silence des Palestiniens, une réalité qui dépasse l'entendement, souligne un chroniqueur. Massacre lors de la prière du matin, titre Maariv. Israël a besoin de vrais leaders face à cette situation, proclame un commentateur. Un autre souligne que la seule solution passe par la reprise du dialogue avec les Palestiniens.
Cet attentat, mais aussi le vote du Parlement espagnol sur la reconnaissance d'un État palestinien, font la une de nombreux journaux arabes, Alexandre Bouchanti.
Oui, et des journaux qui titrent « Guerre de religion à Jérusalem ». Alors une guerre qui, selon eux, est déclenchée par le gouvernement israélien, un gouvernement qui multiplie les exactions et les provocations à l'encontre des Palestiniens de Jérusalem-Est. Des journaux qui se font aussi l'écho des condamnations politiques arabes, mais aussi de celles des institutions religieuses comme celle de la grande mosquée d'Al-Azhar au Caire. La presse applaudit par ailleurs le vote du Parlement espagnol qui a approuvé à la quasi-unanimité la reconnaissance de l'État palestinien. Alors même s'il ne s'agit que d'une reconnaissance informelle, plutôt symbolique, comme celle d'ailleurs du Parlement britannique précédemment, les journaux estiment que les Européens seront de plus en plus nombreux à reconnaître la Palestine et ils espèrent que le Parlement français en fera de même la semaine prochaine.
Ce sera le jeudi 28. Et puis Alexandre, l'élection présidentielle en Tunisie fait elle aussi la une des journaux panarabes.
Une élection qui, souligne les journaux, se déroulera sous haute surveillance policière et militaire et qui constituera un nouveau test de la capacité de la Tunisie à réussir sa réforme démocratique. Alors une élection qui nécessitera sans doute un second tour, estime la plupart des journaux, du fait, selon eux, des divergences au sein des partis laïcs. Et pour beaucoup de journaux, toutefois, l'issue ne fait pas de doute. Les islamistes d'Ennahda et leur candidat Al-Marzouki seront battus, augurant ainsi d'un retour au bourguibisme. Les journaux soulignent enfin que la Tunisie a fermé ses frontières avec la Libye par mesure de sécurité.
Michel Paul, il est de nouveau question du dynamitage des maisons des familles des auteurs d'attentats.
La maison de l'auteur de l'attaque à la voiture Bélier dans une station de tramway dynamitée par les autorités israéliennes, deux autres maisons sur le point de l'être. Benjamin Netanyahou a annoncé la reprise de cette politique. Mais Eric Haaretz le souligne, l'ensemble de la classe sécuritaire israélienne s'oppose à ce genre de mesures, à ces punitions collectives. Tzahal, la police et le Shin Bet et d'autres organisations encore estiment que cela ne fait qu'accroître la haine à l'égard d'Israël et proposent une approche plus chirurgicale, selon le journal, des arrestations plus sélectives. Dans la presse aussi un article de Yuval Diskin, ancien chef de la sécurité intérieure. « Ce qui se passe aujourd'hui, proclame-t-il, nous donne un avant-goût de la réalité de demain dans laquelle nous sommes entraînés par nos dirigeants de droite. »
Alexandre, la détérioration de la situation en Libye fait l'objet de nombreux papiers et commentaires dans votre presse.
Oui, et pour la presse arabe, le chaos sécuritaire en Libye est d'autant plus inquiétant que des groupes armés ont prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique et contrôlent de vastes régions du territoire, y compris la ville de Derna, non loin de la frontière égyptienne. Et c'est ce qui fait craindre à certains éditorialistes un conflit entre ces groupes armés et l'Égypte, qui, elle, est déjà en guerre contre les extrémistes musulmans. Une Égypte qui pourrait à terme être tentée d'intervenir directement ou indirectement dans l'est de la Libye.
Un mot encore, Alexandre, sur le 36e Festival international du cinéma au Caire.
Oui, et selon les journaux arabes, c'est un très bon cru, des journaux qui saluent le retour en force de ce festival de la capitale égyptienne, même si c'est un festival qui reste le parent pauvre des manifestations similaires dans les pays du Golfe. Alors le jury a décerné la Pyramide d'or, évidemment on est en Égypte, du meilleur film à la production iranienne Melbourne, malgré les divergences politiques qu'il y a entre le Caire et Téhéran. Et puis la palme du meilleur acteur est allé à Khaled Abou Naga, un acteur qui est pourtant accusé par certains nationalistes de trahison pour avoir demandé le départ du président Sisi si ce dernier n'était pas capable d'engager de vraies réformes.
Un rôle qui n'était pas de composition. Michel Paul, quelle photo du jour avez-vous choisi cette semaine ?
Bien, c'est la photo d'un rabbin revêtu de son châle de prière et portant les phylactères recouverts de sang, une des victimes de la tragédie de la synagogue du quartier de Givat Shaul cette semaine à Jérusalem.
Merci Michel, merci Alexandre, merci également à Zacharias Bouyaï qui a réalisé cette émission, émission que vous pouvez retrouver et podcaster sur le site www.rfi.fr, la rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine et à samedi prochain sur RFI.